Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci. En quoi puis-je vous aider ?
48 digital. Communication numérique et activité.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPVD de Mende en partenariat avec 48FM, Lozère Développement et le programme La Fabrique des Territoires.
Bonjour à tous, il est 12h30 et vous êtes en direct sur 48FM.
Merci.
La prochaine heure va être consacrée à notre émission 48 Digital en collaboration avec les étudiants de la licence CNEA de Mende, dont mes collègues et moi-même faisons partie. Mais avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter de la part de toute l'équipe qui contribue à la réalisation de cette émission une bonne année 2023. Maintenant que cela est fait, je vous propose de faire un petit tour de plateau pour vous présenter l'équipe qui vous accompagnera aujourd'hui. Je suis Morgane et je serai votre animatrice pour cette émission. Je serai accompagnée de trois chroniqueurs qui sont Lisa, Baptiste et Estelle. Et nous aurons également le plaisir de recevoir Marie Reynaud, manager de centre-ville à l'Office du commerce Cœur de Lozère, ainsi que Audrey Boulard, fondatrice de la société Locatool. Le thème du jour, c'est le e-commerce. On pourrait le définir en deux mots comme la vente ou la location sur Internet de produits ou de services. Comme vous devez sûrement l'avoir remarqué, ce mode de consommation est en véritable expansion depuis quelques années. Il a été très fortement encouragé par la pandémie de Covid. Mais derrière cette véritable révolution du commerce, disons-le, beaucoup de problématiques se posent à nous, consommateurs comme commerçants. Et je vous mentirais si je vous disais que cela ne faisait pas partie de nos préoccupations principales en tant qu'étudiants des métiers du numérique. Alors aujourd'hui, à l'aide de nos chroniqueurs et de nos invités, nous allons tenter de répondre à quelques interrogations que vous pourriez avoir sur le sujet. Je vais commencer par me tourner vers Marie. Je vous propose de répondre déjà à quelques questions, parce que je pense que tout le monde voit à peu près ce qu'est un office du tourisme, mais un office du commerce, j'ai peur d'en avoir perdu quelques-uns, alors si vous pouviez éclairer nos lanternes, ce serait super.
Bonjour, merci pour votre invitation. Donc moi je suis Marie, je suis manager de centre-ville, je travaille à l'office de commerce Cœur de Lozère. L'office de commerce, c'est une structure en effet qui n'est pas forcément existante sur tous les territoires, mais qui a pour mission de soutenir la fréquentation du centre-ville, la dynamisation du territoire, à travers justement différents outils, différentes actions en faveur du commerce. Donc ici sur le cœur de Lozère, on est une association et donc voilà, je suis salariée de l'association et c'est ma mission de travailler justement à accompagner les commerçants, les porteurs de projets, à mettre en place, à réfléchir et à mettre en place des solutions pour soutenir l'activité commerciale.
Ok, très bien. Et du coup, vous parliez de votre mission à vous, mais du coup, les missions globales de l'Office du commerce auprès des commerçants, c'est quoi exactement ?
Il y en a plusieurs. L'Office de commerce, donc, a pour, on va dire, but, objectif final, comme je disais, de soutenir l'activité commerciale, de favoriser la fréquentation, notamment du territoire du centre-ville et donc de nos commerçants de proximité aussi. Donc ça va passer par un programme d'animation, des opérations commerciales, des animations, des événements pour faire venir le public à la rencontre des commerçants, des artisans, des restaurateurs. Ça va passer par le développement d'outils. On a notre chèque cadeau local, Cadeau Cœur, par exemple, qui est un outil qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années pour pouvoir encourager les gens à consommer local. On peut avoir différents dispositifs d'aide financière qui sont mis en place. Et donc, nous, on va faire le lien entre le financeur et le commerçant pour faire ses demandes. Et puis, on peut également travailler sur tout ce qui est accueil des porteurs de projets, lien avec les propriétaires de locaux commerciaux disponibles pour essayer justement de faire se rencontrer les personnes qui aimeraient ouvrir un commerce avec quelqu'un qui a un commerce qui est libre.
Ok, d'accord. Et du coup, pour une ville comme Mende, pour faire le lien un petit peu avec notre sujet du e-commerce, on pourrait se demander justement si les petits commerces locaux sont pas en train de se faire dépasser par cette concurrence du digital, parce que maintenant on a de plus en plus d'entreprises qui vont être uniquement sur Internet. Et je sais que dans les médias, on entend de plus en plus les gens s'alarmer en disant il y a les petites boulangeries du coin ou du village qui ferment, etc. Et du coup, vous adoptez quel comportement, quelle réponse par rapport à ça du coup?
Bah, aujourd'hui, le e-commerce et en tout cas les usages numériques, ils sont pour nous, ils sont complémentaires avec une activité de commerce physique, mm-hmm. avec le magasin entre guillemets. L'idée, c'est de ne pas justement faire la distinction en se disant oh là là, ça peut être un gros risque. Vaut mieux entre guillemets. Essayer d'apprivoiser les usages numériques, le e-commerce, plutôt que de se tenir complètement à l'écart, puisque de fait, c'est un outil existant, c'est une nouvelle tendance de consommation qui existe, donc autant s'y intéresser. Et après, sur justement la partie, est-ce que ça va mettre en danger les boutiques? Nous, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi la possibilité de faire parler de nous, de faire parler du territoire. Donc, le numérique, c'est aussi une vitrine en ligne intéressante à pas négliger.
Ouais, c'est un moyen de communication un peu plus étendu.
Ça peut être l'occasion, voilà, de toucher des gens ailleurs. Ça peut être l'occasion aussi de se questionner pour les commerçants, pour les artisans. Certains, voilà, ont pas traîné pour justement prendre le train en marche et réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour utiliser cet outil du numérique et du e-commerce.
Ok. Et il y en a qui sont réticents, du coup, par rapport à ça, à utiliser des outils informatiques, peut-être, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences.
Il y a la question de la compétence, il y a aussi beaucoup la question du temps, qui n'est pas négligé.
Oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, on l'a vu pendant la pandémie, faire vivre une boutique en ligne, c'est comme tenir un magasin à temps plein. Il faut nourrir le site internet, il faut gérer les stocks, il faut répondre aux demandes qui peuvent arriver jour et nuit. Hein, c'est le principe de la vente en ligne. Donc, pour les commerçants, la question, c'est pas tant la peur ou le manque de compétences. On essaie de les accompagner. Il y a pas mal d'acteurs qui peuvent, justement, des cabinets de conseil, la CCI, la CMA, qui peuvent les accompagner, justement, à se rassurer par rapport au numérique. Par contre, encore faut-il qu'ils s'organisent dans leur façon de travailler pour avoir le temps pour faire vivre leur boutique plus une boutique en ligne. C'est presque tenir deux magasins, finalement.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on pourrait se dire qu'au final, la communication en ligne, ça peut se résumer à faire un ou deux posts sur Instagram ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on se rend compte rapidement que c'est beaucoup plus que juste ça. Mais du coup, il y a aussi un autre facteur, je pense, pour les commerçants mandois. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue en arrivant ici. C'est aussi qu'on a quelques grandes surfaces, par exemple Super U, Intermarché, etc. Et est-ce qu'ils ne vont pas aussi venir un petit peu empiéter sur les petits commerces qu'on pourrait avoir à Mandes?
Bah, je crois que ça existe depuis toujours. La grande distribution, par définition, elle a une offre de services et de produits qui est très, très variée. Donc forcément, elle apporte une concurrence de par la diversité de sa proposition. Maintenant, c'est aussi au consommateur de se dire, bah voilà, je trouve que je vais aller faire certains achats dans la distribution, mais j'ai aussi certains achats peut-être plus pointus, plus spécialisés. Je sais que je peux trouver un commerçant qui ne fait que ça, et du coup soutenir aussi le commerce local. Voilà, l'idée, c'est il y a une concurrence certainement, mais en même temps, il y a plusieurs magasins qui vendent les mêmes types de produits aussi en ville. Donc l'idée, c'est voilà, au consommateur aussi de faire son choix et peut-être de se dire tiens, tel article, je peux le trouver facilement dans la grande distribution, mais je sais qu'il y a aussi des magasins qui se spécialisent là-dedans et ça vaut le coup d'aller y faire un tour.
Ok. Est-ce que les gens ont quand même encore envie d'ouvrir leur commerce à Mende? Comment on fait pour les attirer?
Oui, absolument. Aujourd'hui, nous, les indicateurs à l'office de commerce que l'on va suivre, ça va être, par exemple, le taux de vacances. C'est un terme un peu barbare pour parler du nombre de locaux qui sont vides, inutilisés, par rapport au nombre de locaux disponibles sur le marché. Et on se rend compte que y en a de moins en moins. Depuis quelques années, ça baisse. Moi, après, de manière pratico-pratique, je reçois en moyenne 2 à 3 porteurs de projets par mois. Soit physiquement parce qu'ils viennent me rencontrer à l'office pour se renseigner, soit ils m'appellent, soit je reçois des mails de personnes qui viennent soit du territoire, soit d'ailleurs, et qui envisagent d'ouvrir un commerce, qui veulent justement savoir un petit peu comment se porte l'activité, l'état du marché, la concurrence existante, et qui du coup viennent prendre des renseignements auprès de l'office de commerce. Et après, en fonction de la maturité de leur projet, il y en a qui sont très avancés, il y en a qui vont passer par les chambres consulaires pour mieux construire, mieux être accompagnés individuellement dans la construction de leur projet. Mais en tout cas, on est sur un territoire qui continue d'attirer.
Qui bouge. Ok. Avant d'aller plus loin et de rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, on va écouter la chronique de Lisa qui va nous donner une définition un peu plus claire du e-commerce.
Oui, en tout cas, je vais essayer. Donc, la thématique, donc, c'est sur acheter sur Internet. En France, le e-commerce a rapporté plus de 129 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, soit 100 fois plus qu'au cours des 20 dernières années. La vente de produits et services en ligne ne cesse d'augmenter. Ce sont les 25-39 ans qui effectuent le plus d'achats en ligne et le secteur de la mode et de l'habillement est le premier marché de e-commerce en France. Ce système de consommation plaît pour de nombreux motifs. Dimanche soir, au fond de mon lit, j'ai pu commander mon cadeau de Saint-Valentin et j'ai reçu mon colis le lendemain directement dans ma boîte aux lettres. C'est ça le e-commerce, un service en ligne proposant un choix astronomique de produits accessibles tous les jours en H24. Avec la possibilité de comparer des produits et de bénéficier de promotions donnant l'illusion à l'acheteur de faire une super affaire. Le tout sans bouger de chez soi et en trois clics. Il existe différents systèmes de vente. Certains vendent leurs produits qu'ils ont en stock directement depuis leur site e-commerce. D'autres vont faire la promotion de leur marque via les réseaux sociaux et il existe désormais des systèmes de marketplace, soit des petites boutiques en ligne, facilement réalisables depuis son compte Facebook ou Instagram. De nombreux consommateurs utilisent également Internet pour les achats alimentaires, avec le système de Drive par exemple. Ne pas faire la queue à la caisse et se voir installer ses courses directement dans le coffre de sa voiture après sa journée de travail, c'est plutôt pratique. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de stocker leurs marchandises, il existe le système de dropshipping. Il faut décortiquer cette vitrine en trois étapes. Le fournisseur, qui propose sa gamme de produits à des revendeurs. Le revendeur, ou dropshipper, qui revend ces mêmes produits sur son site e-commerce, le client qui achète les produits sur les sites e-commerce et se fait livrer directement par le fournisseur. Le dropshipping est en grande partie alimenté par des fournisseurs et grossistes chinois et ce business est en hausse constante depuis des années. Cependant, depuis 2022, les Français portent une véritable attention à l'origine et au lieu de fabrication de leurs produits. Ils veulent favoriser une consommation « made in France ». Et les entreprises locales, justement. Vous allez me dire que face à la concurrence d'Internet, comment les magasins de proximité peuvent s'en sortir? C'est la question que tu posais. Les chiffres que je vais vous annoncer proviennent de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEFAD. C'est une association à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner le développement éthique et durable du commerce électronique et de la vente à distance en France. Le e-commerce est en réalité au service des commerces de proximité. En effet, un magasin qui propose la vente en ligne augmente son chiffre d'affaires de 14%. Les ventes sur Internet ont permis à de nombreux commerces physiques fermés lors des confinements de maintenir une activité, ce que vous disiez tout à l'heure. Les consommateurs qui se sont trouvés à expérimenter ces systèmes d'achat plébiscitent aujourd'hui cette dynamique omnicanale de leur enseigne, y compris de la part de leur commerce de proximité. 48% des e-acheteurs ont la possibilité de finaliser un achat en magasin, après l'avoir préparé sur Internet. En parallèle, 46% peuvent avoir essayé la marchandise en magasin et finalisé son parcours d'achat sur le site e-commerce de cette même enseigne. En France, 52% des commerces indépendants qui vendent en ligne sont en croissance, contre 39% pour les commerces qui fonctionnent uniquement en hors ligne. Les principaux avantages de la vente en ligne sont un chiffre d'affaires plus élevé, une augmentation de la fréquentation de leurs magasins physiques. 68% des e-acheteurs considèrent que les commerces de proximité en centre-ville devraient proposer la possibilité de commander sur Internet. Et 64% des cyber-acheteurs sont favorables au regroupement des commerçants de proximité sur un seul et même site. L'Office du commerce demande, l'a bien compris, en créant un répertoire des commerçants de la ville accessible depuis leur site.
Merci Lisa pour ta chronique. Je pense que tu as permis à tout le monde de comprendre un peu mieux ce qu'était le e-commerce. Je vais à nouveau me tourner vers Marie. Par rapport à ce que Lisa disait dans sa chronique, c'est vrai qu'on a une vraie hybridation qui se fait entre commerce physique et commerce, enfin e-commerce du coup sur Internet, et où le e-commerce est au service d'un commerce physique. Mais il y a aussi, au niveau du numérique, une question, je pense, qui se pose de magasins qui vont se digitaliser, qui vont, par exemple, alors surtout dans les grosses villes, du coup, mais qui vont accueillir des tablettes pour aiguiller les gens plutôt que des fois des vendeurs qui vont venir les voir, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander que c'est finalement l'avenir d'un commerce physique et qu'on va tous arriver, alors je vais loin dans mon idée, mais où un robot va nous accueillir, on va pouvoir essayer des vêtements sans changer, juste sur un écran. Enfin, comment on voit les choses, surtout dans une petite ville comme Mende?
Je ne sais pas si ça vous fait rêver, mais moi, comme ça, a priori, je crois que les gens, ils tiennent beaucoup à leur commerce de proximité. Et quand je dis leur commerce, je dis leur commerçant. Ouais. La personne du commerçant, de l'artisan, son savoir-faire, son conseil, etc. C'est vraiment quand même ce qu'on cherche aujourd'hui. On est à une période où, c'est sûr, on l'a dit, le numérique, ça permet... plein de facilités, ça permet de garder le contact en envoyant une newsletter, ça permet de prendre un rendez-vous en ligne pour ensuite aller bénéficier d'une prestation. Il y a plein de possibilités. Je pense pas que le digital va remplacer le commerce de proximité, parce que là on parle de liens sociaux, on parle de personnes qui vont acheter leurs baguettes, etc. Donc ça, c'est important, et je pense qu'on n'est pas prêt de passer à quelque chose de 100% numérique non plus.
Surtout après le Covid, le contact humain, c'est important.
Et on s'en est rendu compte pendant le confinement. Les gens avaient besoin de continuer de consommer, donc on a développé les usages numériques. Mais aussi statistiquement, après le confinement, il y a eu un retour très important des gens en magasin. Certains ont maintenu leurs habitudes prises d'achat en ligne, mais d'autres sont aussi, et très nombreux, sont retournés chez leurs commerçants, parce que c'est ça qui nous avait manqué aussi, c'était le contact humain.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi une autre question que je voulais poser par rapport à ta chronique, Lisa. Tout à l'heure, tu parlais du Made in France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est important pour les gens de consommer local et de consommer français et de voir ce genre de label apparaître ?
Oui, je pense que ça fait partie des nouvelles tendances de consommation que l'on peut observer. Le souci de l'origine des produits, de la manière dont c'est fabriqué, du savoir-faire qu'il y a derrière. Les gens sont plus intéressés maintenant et sont plus soucieux de faire fonctionner, si possible, un circuit court en local, de limiter les déchets, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Ça fait partie comme le e-commerce, comme les nouvelles tendances numériques, de ces nouveaux souhaits exprimés par les consommateurs. Et là encore, c'est pas incompatible. On peut consommer local en utilisant aussi le numérique. Et encore une fois, il y a beaucoup de commerçants qui s'en emparent aujourd'hui, qui communiquent davantage sur la manière dont ils produisent, qui sont leurs fournisseurs. Et quelque part, ça nous rassure de savoir un petit peu d'où vient le produit que l'on achète. Et ça justifie aussi la question du prix. Il y a une période où les gens voulaient à tout prix avoir les prix les plus bas. Maintenant, quand on nous explique derrière ce que ça implique, qui l'a fabriqué, comment sont rémunérés les gens, etc., on comprend mieux le prix qui nous est proposé. On comprend aussi parfois que il n'y a pas de promotion possible sur ce produit-là, parce que on a une explication avec.
C'est vrai. Et est-ce qu'il y a des labels particuliers mis en place que vous auriez en connaissance sur la Lozère, sur Mende, pour les commerçants ?
Il y en a, il en existe plusieurs. Celui qu'on voit et qu'on retrouve souvent dans nos rues, c'est Préférence Commerce, qui est un outil de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Ce qui est intéressant avec ce label, c'est que c'est une démarche volontaire de la part du commerçant, que justement de se challenger, de tester à travers une auto-évaluation, mais également des visites mystères, de se mettre entre guillemets, de se mettre ce challenge, de voir où est-ce qu'il se situe, sur quel point est-ce qu'il peut s'améliorer. Et donc, au final, il peut être récompensé par ce label Préférence Commerce quand il a un certain nombre de critères qui sont remplis sur la qualité d'accueil, sur le conseil, sur l'agencement de sa boutique. Il y a plein d'aspects qui sont pris en considération.
D'accord. Tout à l'heure, je vous ai demandé un petit peu les missions de l'Office du Commerce. Est-ce qu'il y en a certaines que vous aimeriez mettre en avant, qui pourraient se passer en ce moment, par exemple ?
Nous, sur les missions, on en mène régulièrement. On a pu mettre en place des dispositifs comme Ma Boutique à l'essai pour accompagner des porteurs de projets à tester pendant quelques années leur activité. Et là, d'actualité, on a également un événement qu'on a mené l'année dernière qui s'appelle Mon Centre-Ville a un incroyable commerce, qui a été porté par le service développement économique de la communauté de communes avec qui on était partenaire. Et donc, la gagnante du concours sur la ville de Mende participe demain à la finale nationale qui se tient à Paris. Donc, c'est un projet de restaurant qui va ouvrir en centre-ville, un établissement qui s'appelle Beurre Noisette, qui est tenu par un jeune couple qui a plein d'envie, qui vient pas de la région d'ailleurs, qui s'est installé récemment et qui a le souhait de s'implanter avec une activité, voilà, la restauration en ce moment, ils ont besoin d'être soutenus, donc voilà, on leur envoie toute notre énergie pour la finale et puis pour la suite, pour le lancement, l'ouverture qui est le 29 janvier de mémoire.
Et ben le 29 janvier, on prend note et puis voilà, on leur souhaite beaucoup de courage et on espère qu'ils vont gagner. Pourquoi pas, ce serait sympa. Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Donc c'est un couple qui n'est même pas de la région et qui est venu. Moi, je trouve qu'aux informations, on parle beaucoup de déserts ruraux, de les gens s'en vont. Et moi, je trouve qu'avec toutes les initiatives qui sont mises en place à Mende, il y a quand même une certaine envie des gens, surtout des gens qui viennent de grosses villes, très peuplées, où ils ne voient pas forcément la lumière du soleil, etc. Et qui ont en fait envie de revenir à des choses plus simples et dans un territoire un petit peu plus calme et un petit peu plus serein.
Mais tout en trouvant les services et les activités qu'ils recherchent. C'est un petit peu la force aussi de notre territoire. On est sur, ici, une ville-préfecture où il y a des services et où du coup, bah, voilà, les gens peuvent avoir les mêmes aspirations que dans les grandes villes, mais tout en étant dans une ville à taille humaine, en connaissant bien justement leurs commerçants, pour saluer les gens dans la rue, etc. Je crois que c'est aussi ce qu'ils recherchent aujourd'hui.
Ouais, on est d'accord. Je rebondis du coup sur les événements dont vous parliez. Vous avez des retours des commerçants par rapport à ces événements, je suppose ?
Bah, nous, sur nos animations ou sur l'accueil des nouveaux ou des personnes qui aimeraient ouvrir un établissement ?
Surtout, alors après, les personnes qui aimeraient ouvrir un établissement, j'ai préparé une question après, mais...
Oui, alors bien sûr, on a des retours des commerçants. Nous, au niveau de l'office de commerce, on a un bureau animation. On a 7 commerçants en activité avec qui je travaille, que je réunis régulièrement pour définir le programme des animations, faire un retour sur ce qui s'est passé. Et puis là, en fin d'année 2022, début d'année 2023, on fait aussi un questionnaire de satisfaction pour savoir justement quelles sont les opérations qui ont le mieux fonctionné, qui ont eu des répercussions positives chez les commerçants en matière de chiffre d'affaires, mais pas que. Et du coup, voilà, c'est avec eux qu'on va définir la suite du programme, des opérations que l'on reconduira, celles qu'on doit transformer, celles qu'on doit améliorer. Voilà, on essaie de toujours être à l'écoute aussi du besoin et de la réalité des commerçants, des artisans, des restaurateurs.
D'accord. Il y a une vraie volonté de ces commerçants, j'ai l'impression, de s'investir là-dedans et de mener tous ces projets à bien, finalement.
Ben oui, je crois qu'ils sont, ils ont, entre guillemets, ils savent qu'ils ont un office de commerce, une organisation qui leur est dédiée et qui est là pour les accompagner. Donc, ils viennent régulièrement nous faire des retours sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais en tout cas, voilà, ils se disent, profitons de cet outil pour essayer de mettre en place des choses.
Ok. Bon, j'ai une dernière question, du coup, ma fameuse question. Si une entreprise locale nous écoute, ou quelqu'un qui aimerait ouvrir une entreprise locale et qui aimerait aussi se mettre en numérique, mais qui aimerait quand même ouvrir, par exemple, un commerce sur Mende, pourquoi pas, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner ?
Bah de venir me rendre visite à l'office de commerce déjà. Non, mais c'est une première étape pour pouvoir échanger, pour pouvoir expliquer à cette personne bah voilà comment ça se passe, lui parler de en fonction de son projet peut-être des locaux disponibles, sur le e-commerce des aides disponibles puisqu'on a une aide aujourd'hui financière de la part de la communauté de communes pour financer ou prendre en charge une partie d'un site marchand, la création du site et puis sa maintenance sur les 3 premières années. Donc si la personne elle souhaite ouvrir une boutique plus une boutique en ligne, bah voilà, il y a des aides à sa disposition. Et donc voilà, donc on peut discuter de tout ça puisque ma mission c'est aussi de passer du temps et de pouvoir recevoir les gens pour leur expliquer tout ça.
D'accord. Et ben s'ils nous écoutent ou s'ils nous regardent, il faut pas qu'ils hésitent.
C'est ça.
Ben merci beaucoup Marie, merci Lisa pour ta chronique. Je vais vous laisser sur une petite pause musicale et on se retrouve après avec Audrey Boulard, fondatrice de la société Locatool. À tout de suite. I'm ageless.
Nous sommes de retour dans l'émission 48 Digital et je suis maintenant en présence de Audrey et de Estelle. Alors avant qu'Audrey nous présente plus en détail son entreprise Locatool, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, je vous propose d'écouter directement la chronique d'Estelle qui s'est penchée sur les avantages de la location en ligne ainsi que sur les catégories d'acheteurs concernées par ce nouveau système de consommation. Pardon, à toi Estelle.
Merci Morgan. Un site web comme un magasin a pour principal objectif de vendre ses services ou ses produits à ses clients. Posséder et animer un site web ne suffisent pas pour exercer une activité commerciale. L'e-marketing est l'outil que le commerçant utilise sur Internet pour faire venir ses clients sur son site web et ainsi générer des ventes. Par définition, l'e-marketing est un ensemble de techniques appliquées à la promotion de produits ou de services via des sites d'e-commerce ou par l'intermédiaire de différents types de supports interactifs, email, SMS, permettant par l'intermédiaire de liens hypertextes, de naviguer sur les sites web des marchands. Ici, nous nous penchons sur un élément spécifique qui est la location d'engins via le digital. Le marché de la location des biens personnels et domestiques représentait près de 7 milliards d'euros en France début 2020. Selon les dernières données publiées par l'INSE, avec un taux de croissance du marché de près de 10% par an, la location s'est imposée auprès des distributeurs ces dernières années comme un excellent moyen de diversifier leurs activités et leurs sources de revenus. Afin de maximiser la visibilité de cette nouvelle offre et d'acquérir de nouveaux clients, Ces derniers doivent toutefois adopter une approche marketing adaptée. Dans ce contexte, nous nous posons la question de savoir comment l'e-marketing pourra mettre en avant ce domaine et quels seraient les avantages de la location d'outils pour les mondois. En premier lieu, un prix trop élevé pour un usage limité. Justement, un internaute ou un visiteur qui n'a pas finalisé son achat qu'après réflexion s'est demandé pourquoi acheter un article cher pour l'utiliser une seule fois. Il sera ouvert à une offre de location. Ajouté à l'argument précédent, l'on peut parler de l'impossibilité de tester les produits. En effet, un internaute ou un visiteur qui ne connaît pas la fiabilité du produit proposé se demandera si cela vaut la peine d'acheter un produit à un certain prix. Aussi, il y a la peur de s'encombrer d'objets volumineux. Alors, un internaute ou un visiteur qui sait que l'outil dont il a besoin est pour une activité fixe et temporaire et qui a pour contrainte de vivre dans un endroit pas grand ou encombré, pourra stopper son processus d'achat juste pour cela. En se basant sur les éléments cités, nous pouvons dire que la location est une réponse face aux problématiques de stockage, d'encombrement, de mobilité et d'usage ponctuel. En plus, la location est un mode de consommation modulable. La durée, les services additionnels et le financement s'adaptent aux besoins et aux contraintes du consommateur. La location permet aussi de s'équiper sans investissement conséquent ou d'accéder à des produits haut de gamme sans avoir à les acheter. Enfin, la location répond à des aspirations profondes des consommateurs, comme la réduction de leur impact sur l'environnement ou le minimalisme. Un pas supplémentaire vers l'économie et l'usage et du partage. Pour conclure, en termes de profil, les consommateurs intéressés par la location comme alternative à un potentiel achat sont plutôt de jeunes urbains aisés et indépendants, cas sans famille à charge ou non mariés. Une récente étude menée aux États-Unis rapporte que les personnes qui ont recours à la location de biens et d'équipements sont âgées de 18 à 38 ans pour une grande majorité, dont 64%, sont souvent célibataires, 65%, et vivent généralement en ville, 72%, avec un revenu supérieur à la moyenne. Cela dit, avec l'engouement croissant pour la location, ce sont des typologies de consommateurs toujours plus diverses qui sont concernées.
Merci Estelle pour ta chronique. Du coup, maintenant que notre sujet est bien introduit, Audrey, je vais te laisser nous présenter ton entreprise.
Oui, bah, merci en tout cas pour l'invitation déjà.
Merci à toi.
Donc, l'entreprise que j'ai créée en mars dernier, ça s'appelle Locatool. Et en fait, le but, c'est de faciliter la location d'objets peu utilisés. J'ai créé un site internet, locatool.fr, qui référence des offres de location de commerçants partenaires. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, d'une part, de faciliter en fait la mise en place de nouvelles offres de location pour ces commerçants-là, et d'autre part aussi de faciliter la location pour les clients.
Voilà. D'accord. Tu fais vraiment le lien entre les deux, quoi.
C'est ça, c'est donner de la visibilité à la location pour que ce soit plus facile et du coup développer ce mode de consommation pour tous les avantages du coup qui ont été cités précédemment.
D'accord. Et comment t'es venue cette idée du coup ?
Alors, donc tout ce qui est économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire ne pas forcément acheter un produit, mais juste payer finalement l'usage de ce produit-là, c'est quelque chose qui m'intéressait, que j'ai pas mal creusé. Mmh. Et en parallèle de ça, en fait, j'avais besoin de nettoyer ma terrasse. Donc j'avais besoin d'un nettoyeur haute pression. J'en avais pas, je me suis dit, bon, en acheter un pour l'utiliser une fois à l'année, c'est pas forcément très utile. J'ai cherché un peu ce qu'il y avait en location. Et en fait, le marché de la location, les offres de location pour les particuliers, je trouvais que c'était pas forcément très pratique. Mmh. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour essayer vraiment de rendre la location aussi simple que l'achat. Et notamment, en fait, le e-commerce, on en a parlé pas mal, vous en avez parlé précédemment, c'est quelque chose qui a pour but de faciliter, en fait, le commerce. Et en location, il y a quand même quelque chose à faire. Donc voilà, l'idée, c'est de faire de la e-location aussi simplement que du e-commerce.
D'accord, ok, très bien. Baptiste nous parlera un petit peu des avantages tout à l'heure. Il vient de rejoindre sur le plateau. Pour continuer dans mes questions, il y en a une autre qui m'est venue à l'esprit quand Estelle a parlé de sa chronique. Du coup, c'est qu'elle disait que du coup, c'était plutôt des services qui étaient consommés par une population plutôt urbaine.
et je vais revenir encore sur le sujet, mais du coup, Amande, comment est-ce qu'on en arrive à faire ça?
Alors, je dirais que c'est consommé par une population plus urbaine parce qu'il y a une offre plus importante en ville déjà. Alors, il va y avoir deux choses. Il y a une offre qui est plus importante, donc déjà les clients vont penser à louer, alors que quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'offre, bah déjà on va pas se tourner vers ce type de commerce. Après, il va y avoir la typologie de produits qui peut être un peu différente, c'est-à-dire que quand on a un intérieur tout petit, bah c'est vrai que plus on achète, plus on encombre et tout ça. Donc il y a cette partie-là, mais après sur un environnement un peu plus urbain, on a certes plus de place, mais on a aussi en général plus de besoins. Et pas forcément récurrent dans le sens où ça va pas être tous les mois, mais des fois on a un besoin une fois à l'année ou encore moins. Donc finalement c'est aussi ouvert sur cette typologie là et il y a le côté que Estelle aussi disait sur l'âge des personnes qui sont intéressées. On voit qu'il y a les jeunes qui sont moins attachés à la propriété, donc c'est quand même quelque chose qui va se développer autant sur la partie urbaine que plus rurale.
Ouais, c'est une tendance de consommation qui est en train d'arriver.
C'est ça.
La problématique, c'est que les gens ne prennent pas l'habitude tant que le service n'existe pas.
Compliqué de prendre l'habitude quand on cherche une offre de location, on trouve rien. On se dirige directement vers l'achat et finalement, c'est quelque chose qui s'auto-entretient. Donc voilà, le but, c'est de créer de l'offre pour qu'on puisse vraiment compter sur la location.
D'accord. Et du coup, je vais te poser une question qui est un peu l'inverse de ce que j'ai demandé tout à l'heure à Marie, parce que tout à l'heure, je disais à Marie que c'était plus compliqué quand on était un commerce juste physique et que du coup, on n'était pas forcément présent sur Internet. Du coup, toi, je vais te poser la question inverse. Est-ce que c'est pas aussi compliqué, finalement, d'être présent que sur Internet et pas d'avoir de magasin physique, finalement?
C'est sûr que quand on a un magasin physique, on a une devanture, les gens, ils nous voient. Sur Internet, il faut se faire voir différemment. Mais du coup, comme un commerce, en fait, on va chercher comment communiquer en fait sur notre offre. Certes, je vais pas avoir de devanture. Par contre, ça va être travail sur les réseaux sociaux, le référencement, etc. Et après aussi, moi, la façon que j'apporte ce sujet-là, c'est aussi de travailler justement avec des commerces locaux. Parce que sur de la location, il va y avoir quand même quelque chose de particulier par rapport à du e-commerce classique. C'est-à-dire qu'on va pas juste envoyer le produit et puis c'est fini. On va avoir deux allers-retours minimum. Et donc, en fait, pour ça, moi je choisis de travailler justement avec des commerçants locaux et du coup d'avoir aussi de la visibilité via ces commerçants là voilà, mais c'est quelque chose qui se travaille. On se rend pas forcément compte, il y a aussi beaucoup personnes qui se lancent dans du e-commerce en disant je vais créer mon site internet et ça va marcher. Non. Et comme ça je payerai pas de loyer. Non, en fait, si on paye un loyer, c'est aussi on paye de la visibilité, de la communication, et derrière, en fait, quand on n'a pas cette visibilité là il va falloir faire de la communication autrement et ça a un coût aussi.
Donc finalement, tu as un double métier en fait. Parce que d'un côté, tu proposes à la location des produits, on pourrait se dire ça s'arrête là, mais au final pas du tout, parce qu'il y a aussi cette communication déjà de toi, ton entreprise, et aussi des commerçants du coup avec lesquels tu travailles.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, en fait la communication c'est un aspect clé en fait de l'activité. Il va y avoir une activité donc de création justement de ces offres-là, etc. Et de communication autour de ces offres. C'est sûr que c'est... partie intégrante du métier. Sans ça, de toute façon, un site internet parmi la jungle d'internet, il sera jamais vu.
Exact. Et il y a quand même encore des gens qui restent très sceptiques et qui se disent finalement, comme ton cas pour le nettoyeur haute pression, qui se disent bon, il n'y a pas d'offre et puis c'est trop compliqué de chercher, de louer, etc. Tant pis, autant que j'aille acheter, même si c'est pour payer un peu plus cher pour quelque chose que je ne vais pas utiliser énormément. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens un petit peu sceptiques?
Alors, les personnes qui sont vraiment sceptiques, naturellement, à un moment, c'est compliqué de convaincre. Non, mais le but, ça va pas être de convaincre tout le monde juste de louer. Ça va plutôt être d'accompagner à la réflexion en fait sur ces modes de consommation, de justement réfléchir, parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément réfléchir à est-ce que je peux louer. Qui savent qu'ils n'en ont pas forcément beaucoup besoin, mais qui ne vont pas forcément penser à la location. Donc c'est surtout, ce que je cherche à développer, c'est une réflexion, de se dire, avant d'acheter, est-ce que je vais m'en servir? Si je m'en sers peu, est-ce que je peux faire différemment? Le louer, l'emprunter, etc. Mais c'est vraiment aller dans cette démarche-là plutôt que de forcer à la location. Il faut vraiment que ça vienne du d'une volonté de consommer.
Faut que ce soit un déclic un peu de la part du consommateur.
C'est ça. Et puis après, quand on commence à y toucher, en fait, on se rend compte que bah, ça coûte quand même moins cher pour avoir en général des produits de qualité. Ça encombre pas. On peut avoir accès à plus de produits, du coup. Donc oui, finalement, voilà, fois, quand on commence à regarder, et je le vois aussi sur bah, les clients que j'ai des clients qui reviennent parce que justement, bah, c'est quand même très pratique de pouvoir louer.
Oui, et puis finalement, au fur et à mesure qu'on prend l'habitude, ça devient plus simple que d'aller acheter.
Ben, c'est ça, on n'a pas à choisir, ben, tiens, quelle perceuse est-ce que je vais prendre ? Est-ce que je prends l'entrée de gamme ? Est-ce que je prends la plus haute gamme ? Mais en même temps, je m'en sers quasiment pas. Ben, voilà, toutes ces réflexions-là, c'est ben, je loue un produit. En général, ça va être plutôt des produits de qualité qu'on essaye de mettre à la location ben, pour pas qu'ils soient détériorés trop rapidement. Mmh. Et puis, c'est tout simple, en fait.
Ok, très bien. Avant de passer à la suite de mes questions, on va parler de la relation entre consommation, voire surconsommation, et impact environnemental. Et je crois que Baptiste a deux, trois choses à nous dire là-dessus.
Effectivement. Tronçonneuse, paire de ski ou voiture, pourquoi acheter ce qu'on ne va utiliser que très ponctuellement ? Nous sommes constamment sollicités pour acheter neuf des produits qui ne vont nous servir que quelques fois pour ensuite prendre la poussière au fond de nos placards. En moyenne, chaque foyer français dispose de 99 équipements électriques ou électroniques. L'association Zero Waste France explique d'ailleurs qu'une perceuse est utilisée en moyenne 12 minutes sur toute sa durée de vie. Or, on sait que la production, le transport et la fin de vie de l'électroménager, mais aussi des vêtements, meubles ou moyens de transport, sont très coûteux pour l'environnement. Alors pourquoi ne pas mieux réfléchir à ses besoins, en misant par exemple sur la location ou le partage ? Louer une paire de skis, une jolie robe le temps d'une soirée, partager une voiture pour un long trajet ou alors se faire prêter un appareil est de plus en plus facile. Un des exemples très répandus dans les grandes villes en France est la mobilité partagée, la location de vélos en libre-service, la location de voitures en particulier, ou encore le covoiturage qui permet un bénéfice environnemental et économique. Mais le business de la location et du troc s'agrandit, et de nombreux autres objets auxquels on ne s'y attend pas forcément peuvent être maintenant loués à des particuliers ou à des entreprises. Ça y est, Noël est passé, c'est l'heure de se débarrasser de son sapin. Entre les aiguilles coincées derrière le canapé, les enfants qui jouent au foot avec les dernières boules de Noël et ce fameux sapin qui, on ne sait par quel miracle de Noël, ne rentre plus dans la voiture, la fin des fêtes de fin d'année peuvent vite tourner à la prise de tête. Mais heureusement pour vous, Éco-Sapin a la solution. Éco-Sapin propose de louer donc un sapin sur internet qui vous sera livré directement devant votre porte le jour de votre choix et sera récupéré à la fin des festivités pour retourner en terre auprès des siens, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Si l'idée n'a rien de neuf, elle est favorisée par les outils numériques et on parle aujourd'hui de consommation collaborative. C'est ce que propose le site Kiwiz qui permet aux particuliers et aux entreprises de matériel en passant de l'outillage basique aux équipements pour bébés et aux vêtements ainsi que d'échanger divers services. Enfin, il est important de noter que la location de produits peut également contribuer à l'économie locale en soutenant les entreprises du coin qui proposent des services de location ou de produits comme Locatool. Cela permet de créer des emplois et de stimuler l'économie locale.
Merci pour cette chronique. Ben, si j'avais su, je ne me serais pas encombrée de mon sapin dans ma Clio de campus. Voilà, c'est une information à prendre. Je vais à nouveau me diriger vers toi, Audrey. Est-ce que tu es d'accord avec Baptiste quand il nous dit que la location de matériel aide aussi les gens à consommer d'une manière qui leur permet de réduire un petit peu leur impact environnemental ?
Oui, tout à fait. Et même, je compléterai en fait avec ce que tu as dit. Ça va concerner la fin de vie, mais également toute la fabrication. En fait, fabriquer un produit, ça a vraiment des vrais impacts, autant énergétique que matière première. Et en fait, en général, on n'a pas conscience aussi de tous ces impacts-là. Et du coup, aussi des impacts de fin de vie, comme tu as pu le dire. Finalement, en louant un produit, tous ces impacts environnementaux vont être mis en commun en fait, entre les différents utilisateurs de ce produit-là. Donc ça peut vraiment réduire cet impact environnemental sans dégrader la qualité de service parce qu'on a toujours accès à ce matériel-là. Donc finalement, ça permet de réduire notre impact sans se contraindre en fait, sur l'utilisation.
Ok, ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que du coup c'était une volonté de ta part ? Est-ce que c'était un aspect que tu avais pris en compte quand tu as créé ton entreprise ?
C'est pris en compte parce qu'en fait c'est un petit peu le fondement en fait initial de l'entreprise. Ouais. C'est vraiment ce que je disais, c'est réduire le nombre d'objets acheter et utiliser une ou deux fois et oublier au fond du placard. Moi, c'est vraiment l'objectif numéro un, c'est de pouvoir consommer plus responsable. On en parle beaucoup de consommer plus responsable. En général, c'est il faut consommer moins de ça. Il y a beaucoup de contraintes en fait mises sur le consommateur. Et je me suis dit, certes, c'est une façon de faire, mais comment est-ce qu'on peut essayer de réduire, que ce soit pas contraignant en fait, et que ce soit même mieux, plus facile, plus intéressant de bien consommer en fait, et plutôt que de toujours devoir faire attention à comment est-ce qu'on consomme, que la contrainte soit plus sur le consommateur, mais qu'on soit vraiment proposeur d'offres pour mieux consommer.
Oui, que limite renverser cette situation où ce qui devient contraignant finalement, c'est d'aller chercher sa perceuse et d'aller l'acheter en magasin alors qu'on pourrait tout simplement la louer.
Finalement. Mais c'est ça, finalement acheter sa perceuse, passer des heures, ce que je disais, à choisir une perceuse, investir dans une perceuse alors qu'on s'en servira quasiment pas.
Elle a dit 12 minutes, c'est rien du tout quoi.
Oui, c'est... Et encore, la perceuse, c'est presque un des outils les plus utilisés. Il y a plein de choses qui sont juste jamais utilisées, qu'on a au fond des placards. J'ai même des personnes qui me disaient, j'ai failli racheter la même chose parce que j'avais oublié que je l'avais au fond du placard. Ah oui. Il y a tellement d'équipements qui servent à rien que c'est vraiment c'est aussi simple de le louer. Et puis voilà.
Ouais, je suis d'accord. Il nous a parlé aussi de l'application Kiwiz, c'est ça ?
Site web.
Et je voulais savoir, est-ce que vous, chez Locatool, ce sera votre objectif de développer ce que vous proposez ? Parce que pour l'instant, on est surtout sur de l'outillage.
Oui, alors sur le type de produit, on est en train de justement regarder pour développer la variété des offres en fait, qu'on peut avoir. On est parti initialement sur du petit électroportatif. Là, on a complété avec tout ce qui est un petit peu plus aussi BTP, avec des carotteuses, des ponceuses parquet, etc. Mm-hmm. On est en train de développer une partie... Non, on a développé une partie espace vert avec des tailleux, motoculteurs, etc. pour le printemps. On regarde pour aller sur une partie événementielle. L'idée, c'est vraiment de développer au maximum la diversité des offres en partenariat avec des commerçants en fait nous. Donc ce qu'on fait c'est vraiment référence des offres de location de commerçants pour être sûr d'avoir du matériel de qualité et que quand le client va venir louer ce soit pas déceptif en fait, on a vraiment un matériel qui est entretenu, qui est fonctionnel. Voilà, c'est ça. Et une diversité avec justement différents commerçants qui sont, comme le disait Marie tout à l'heure, spécialisés chacun en fait dans son domaine.
D'accord. Et je viens de penser, j'ai pas du tout pensé à vous poser la question, mais en termes de localisation, est-ce que c'est que sur Mende ou est-ce que si par exemple j'habite, je sais pas, à Culture, est-ce que je peux quand même louer quelque chose ?
Alors, pour l'instant, les commerçants qu'on a référencés sur le site, c'est plutôt des commerçants mendois. Mmh. Mais là, justement, je suis vraiment en train de travailler pour développer l'activité partout en Lozère, mais également dans les départements limitrophes, justement pour développer l'offre un petit peu, parce que c'est une offre, en fait, numérique, mais locale.
Si les commerçants nous écoutent, c'est le moment.
C'est ça.
Ok, super. Et est-ce que vous avez d'autres objectifs à part de diversifier l'offre sur votre site et de vous étendre ? Est-ce que vous avez d'autres objectifs pour l'année à venir ? C'est le moment des bonnes résolutions finalement.
Nous, c'est vraiment l'objectif principal. En fait, ça va être ça. Ça va être de développer l'offre, de trouver des commerçants qui sont intéressés pour créer des offres de location, les accompagner aussi à pas mal de commerçants qui, des fois, réfléchissent à de la location. Nous, en fait, on va avoir tout un service autour qui va gérer aussi la partie juridique, les prises de caution, etc. Et donc, c'est d'accompagner ces commerçants qui réfléchissent à la location vers vraiment la concrétisation de ces offres-là pour, du coup, développer une offre et vraiment changer les modes de consommation et qu'on aille vraiment qu'on réfléchisse à louer avant d'acheter.
Ok. Et si on a un commerçant qui nous écoute et qui veut prendre contact avec vous, vous avez un site internet, des réseaux sociaux ?
Oui, alors site internet locatool.fr. Mm-hmm. Après, vous pouvez prendre contact avec nous donc via le site, via les réseaux sociaux, donc Locatool, LOCATOOL. Mm-hmm. et puis après, adresse mail contact@locatool.fr. Voilà.
Et c'est tout simple. Super. Merci Audrey d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci.
C'était un très bon moment. Merci à Baptiste pour sa magnifique chronique. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur dans cette aventure, en espérant qu'on entende parler de toi encore longtemps.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Je tiens encore une fois à remercier Marie aussi, qui a accepté de venir aujourd'hui. Merci également à Estelle et à Lisa qui nous ont fait l'honneur de nous faire leur chronique. Merci également à nos auditeurs d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de passer cette émission en votre compagnie et celle d'avant également, puisque c'est la dernière émission de 48 Digital pour cette année scolaire. Voilà, c'est comme ça. Je tiens également à remercier Alexandre, je tiens également à remercier Ludovic, je tiens également à remercier Vincent, je tiens également à remercier Malou et toute l'équipe qui a participé à tout ça, toute ma classe qui est derrière, qui nous entend. Merci à tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt peut-être.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, naked, better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.
Now you know.
Heard you say I'm not the baddest bitch you like.